Les femmes souffrent aussi. En dépit d'un avenir prometteur, l'alcool a failli mettre un terme à sa vie. Membre de la première heure, elle a transmis le message aux femmes dès le début du mouvement. Qu'est-ce que je disais? Comme si je délirais, j'entendais de loin ma propre voix parler à une certaine Dorothée de boutique, de vêtements, de travail. Les mots devenaient plus précis. Le son de ma propre voix m'effrayait en se rapprochant, et soudain, j'étais là, parlant de je ne sais quoi, à quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant. Brusquement, j'ai cessé de parler. Où étais-je? Il m'était déjà arrivé de me réveiller dans une chambre inconnue, complètement vêtue, sur un lit ou sur un divan. Je me suis déjà réveillée dans ma propre chambre, dans mon lit, ne sachant pas quelle heure ou quel jour on était, craignant de le demander. Mais là, c'était différent. Cette fois, je semblais déjà éveillée, assise dans un grand fauteuil, en pleine conversation animée avec une parfaite étrangère, une jeune femme qui ne semblait pas trouver la chose anormale. Elle parlait avec aisance et d'un ton aimable. Terrifiée, j'ai regardé autour de moi. J'étais dans une grande pièce sombre, assez pauvrement meublée. Un salon, dans un sous-sol. J'avais des frissons et je claquais des dents. Je devais même m'asseoir sur mes mains pour en maîtriser le tremblement. J'avais réellement peur, mais ce n'était pas la raison de ces réactions violentes. Je connaissais bien cette réaction. Un verre allait tout arranger. Je n'avais sûrement pas bu depuis longtemps et je n'osais pas demander un verre à cette étrangère. Je dois sortir d'ici. De toute façon, il faut que je parte avant qu'elle ne découvre que j'ignorais pourquoi j'étais là et qu'elle constate que j'étais complètement dingue. J'étais folle, je devais l'aider. Je tremblais de plus en plus. J'ai regardé l'heure, 18 h. La dernière fois que j'avais regardé ma montre, il était 13 h. J'étais confortablement installée dans un restaurant avec Rita et je buvais mon 6e martini. J'espérais que le garçon de table oublierait le repas, question de me permettre d'avaler encore quelques apéritifs. Je n'en avais pris que 2 avec elle, mais j'en avais bu 4 pendant les 15 minutes où je l'ai attendue, sans compter les gorgées prises d'un trait à même la bouteille, quand je me suis levée avec difficulté pour m'habiller par à-coups. En réalité, j'étais en très bonne forme à 13 h, ne ressentant aucune douleur. Qui était-il arrivé? Nous étions en plein cœur de New York, sur la bruyante 42e rue, et maintenant, de toute évidence, dans un secteur résidentiel tranquille. Pourquoi Dorothée m'avait-elle amenée ici? Qui était-elle? Comment l'avais-je rencontrée? Je ne le savais pas et je n'osais pas le demander. Elle ne semblait pas trouver la situation bizarre, mais qu'avais-je fait pendant ces 5 h oubliées? Mon cerveau était en ébullition. J'avais peut-être fait de graves bêtises et je n'avais aucun moyen de le savoir. J'ai enfin réussi à sortir et j'ai marché 5 rues parmi les maisons à façade de grès rouge. Il n'y avait aucun bar en vue, mais j'ai trouvé une station de métro. Je n'en connaissais pas le nom et il m'a fallu demander mon chemin vers Grand Central. Après 3 quarts d'heure de route et 2 correspondances, j'étais revenue chez moi. Je m'étais retrouvée au fin fond de Brooklyn. Ce soir-là, je me suis enivrée totalement, comme d'habitude, mais étrangement, je me suis souvenue de tout. J'essayais de trouver le numéro de téléphone de Willie Seabrook. C'était devenu une manie chez moi, selon ma sœur. Oui, je voulais relancer ce journalisme afin qu'il m'aide à entrer dans une clinique à laquelle il avait consacré un excellent article. J'étais décidée à faire quelque chose. Ça ne pouvait plus durer. Je me suis souvenu d'avoir fixé une fenêtre comme une solution facile et d'avoir frémi de terreur au souvenir de cette autre fenêtre 3 ans auparavant et des 6 mois d'agonie passés ensuite dans un hôpital de Londres. Je me suis souvenu d'avoir rempli de gin la bouteille de peroxyde dans la pharmacie au cas où ma sœur aurait trouvé celle que je cachais sous mon matelas. Je me suis aussi souvenu de l'horreur indescriptible de ces nuits interminables pendant laquelle je n'avais presque pas dormi, me réveillant à tout moment, couverte de sueur froide et en panique, où je buvais rapidement même la bouteille pour tomber dans un sommeil miséricordieux. « Tu es folle, tu es folle, tu es folle !» Ces mots résonnaient dans mon cerveau, avec chaque éclair de lucidité, et je noyais ce refrain dans l'alcool. Cela a duré encore 2 mois avant que je me retrouve dans un hôpital pour entreprendre ma longue lutte vers la normalité. Il y avait plus d'un an que je vivais ainsi. J'avais 32 ans. Quand je repense à cette horrible année où j'ai bu sans arrêt, je me demande comment j'y ai survécu, physiquement ou mentalement. Il y avait, bien sûr, des périodes où je réalisais clairement ce que j'étais devenue, en comparaison avec le souvenir de ce que j'avais été, de ce que j'espérais être. Le contraste était très frappant. Installée dans un bar sur la 2e avenue, acceptant des consommations de quiconque les offrait après que ma petite provision était épuisée, ou assise seule à la maison avec, invariablement, un verre à la main, je me souvenais et ce faisant, je buvais plus vite, recherchant rapidement l'oubli. C'était difficile de concilier ce présent horrible avec les simples faits du passé. Ma famille était à l'aise financièrement. On ne m'avait jamais rien refusé. Je suis allée dans les meilleurs pensionnats. J'ai terminé mes études en Europe et tout cela cadrait avec le rôle conventionnel de débutante et de jeune femme qui était le mien. Au temps de ma jeunesse, l'ère de la prohibition immortalisée par Scott Fitzgerald et John L. Jr., on m'avait appris à être gay en joyeuse compagnie. Mon instinct m'a poussé à les surpasser tous. Un an après avoir fait mes débuts dans la société, je me suis mariée. Jusque-là, tout allait bien. C'était la chose à faire comme des milliers d'autres. À partir de là, c'est devenu mon histoire. Mon mari était alcoolique et comme je n'éprouvais que du mépris pour ceux qui n'avaient pas ma capacité étonnante, le dénouement était inévitable. Mon divorce a coïncidé avec la banqueroute de mon père et je suis allée travailler, rejetant sur tous les autres, sauf moi-même, toute allégeance et responsabilité. Pour moi, le travail n'était qu'un moyen différent menant au même but, pouvoir faire exactement ce que je voulais. Pendant les 10 années qui ont suivi, je n'ai fait que cela. Pour être plus libre et à la recherche des plus grands plaisirs, je suis allée vivre à l'étranger. J'avais ma propre entreprise et je réussissais assez bien pour satisfaire la plupart de mes caprices. J'ai rencontré qui j'ai voulu, j'ai visité tous les endroits qui m'attiraient, j'ai fait tout ce que j'ai voulu. J'étais de plus en plus malheureuse. Têtue et volontaire, je courais de plaisir en plaisir et plus ça allait, moins j'étais heureuse. Les lendemains d'abus ont commencé à prendre des proportions monstrueuses. Et le verre du matin est devenu une absolue nécessité. Les trous de mémoire devenaient plus fréquents et je savais rarement comment j'étais rentrée à la maison. Quand mes amis me disaient que je buvais trop, ils n'étaient plus mes amis. J'allais de groupe en groupe, de place en place, et je continuais à boire. De façon insidieuse, l'alcool était devenu plus important que tout. Il ne me procurait plus de plaisir, il engourdissait la douleur, mais il m'en fallait. J'étais profondément malheureuse. Sans doute, j'étais partie en exil depuis trop longtemps. Je devrais retourner en Amérique. Ce que j'ai fait. À ma surprise, j'ai bu encore plus. Quand je suis entrée à l'hôpital pour des traitements psychiatriques intensifs de longue durée, j'étais certaine de faire une dépression. Je voulais de l'aide et j'ai essayé de coopérer. À mesure que le traitement progressait, j'ai commencé à me voir telle que j'étais, à comprendre que mon caractère m'avait causé tant de problèmes. J'étais hypersensible, timide, idéaliste. Mon incapacité à accepter les dures de la réalité de la vie m'ont rendu cynique et je portais une armure pour me protéger de l'incompréhension du monde. Cette armure s'est transformée en mur de prison, m'enfermant dans ma solitude et dans ma peur. Tout ce qu'il me restait est une farouche détermination à vivre ma propre vie, malgré ce monde aliéné. Et voilà où j'en étais, une femme pleine de craintes intérieures et défiante à l'extérieur, qui avait désespérément besoin d'une béquille pour continuer. L'alcool était cette béquille et je ne voyais pas comment je pourrais vivre sans lui. Quand mon médecin m'a dit que je ne devrais plus jamais boire, j'ai été incapable de le croire. Il me fallait persister assez longtemps dans mes tentatives de me rétablir pour pouvoir en prendre cet alcool dont j'avais besoin sans qu'il ne se retourne contre moi. De plus, comment aurait-il pu comprendre? Il ne buvait pas. Il ne savait pas ce que c'était que d'avoir besoin d'un verre, ni ce que ce verre pouvait subitement apporter. Je voulais vivre, pas dans le désert, mais dans le monde ordinaire. Pour moi, vivre dans un monde normal signifiait vivre parmi des gens qui buvaient, des abstinents n'étaient exclus. J'étais certaine que je ne pouvais pas être avec des gens qui buvaient sans boire. Sur ce point, j'avais raison. Je ne pouvais pas être à l'aise avec n'importe quelle sorte de personne sans boire. Je ne l'avais jamais été. Naturellement, malgré mes bonnes intentions, malgré ma protection derrière les murs de l'hôpital, je me suis saoulée plusieurs fois et j'en étais stupéfaite et bouleversée. C'est alors que mon médecin m'a donné le livre Les Alcooliques Anonymes. Les premiers chapitres ont été une révélation. Je n'étais pas la seule personne au monde qui ressentait la même chose et qui se comportait ainsi. Je n'étais ni folle, ni vicieuse, j'étais malade. Je souffrais d'une vraie maladie qui avait un nom et des symptômes, tout comme le diabète, le cancer ou la tuberculose. Et une maladie, c'est respectable, ce n'est pas un stigmate moral. Puis, il y a eu un obstacle. Je ne pouvais pas digérer la religion et je n'aimais pas entendre la mention de Dieu ou de tout autre nom requérant la majuscule. Si c'était le moyen de s'en sortir, je n'en voulais pas. J'étais une intellectuelle et j'avais besoin d'une réponse intelligente et non émotive. Je l'ai dit à mon médecin de façon non équivoque. Je voulais apprendre à tenir debout et non pas à changer une béquille pour une autre, de surcroît une béquille intangible et douteuse. Ainsi, pendant plusieurs semaines, j'ai poursuivi en maugréant la lecture de ce livre choquant et de plus en plus, je me sentais désespérée. Puis, ce fut le miracle pour moi. Cela n'arrive pas toujours aussi soudainement pour sa soudain. Cela n'arrive pas toujours aussi soudainement pour chacun. Mais j'ai éprouvé une crise personnelle qui m'a remplie de rage et de colère justifiée. Tout en pestant intérieurement et en projetant une bonne cuite pour leur montrer, mes yeux sont tombés sur une phrase dans le livre resté ouvert sur mon lit. Nous ne pouvons pas vivre avec la colère. Les murs ont tremblé et la lumière est apparue. Je n'étais pas prise au piège. Mon corps n'était pas désespéré. J'étais libre et je n'avais pas besoin de boire pour leur montrer. Ce n'était pas la religion, c'était la liberté. Libre de la colère et de la peur, libre de connaître le bonheur et libre de connaître l'amour. Je suis allée à une réunion pour voir de mes propres yeux ce groupe d'illuminés ou de vauriens qui avaient fait cela. Aller dans une réunion de personnes était la chose qui, toute ma vie, à partir du moment où j'ai quitté mon monde personnel de livres et de rêves pour aller vers le vrai monde, celui des réunions sociales et des affaires, m'a toujours donné le sentiment inconfortable que j'étais une intruse et que j'avais besoin de la chaleur de l'alcool pour m'y rendre. Je suis allée en tremblant dans une maison à Brooklyn remplie d'étrangers et j'ai constaté que je rentrais à la maison pour enfin trouver mes semblables. Il y a un autre sens au mot hébreu, traduit par salut dans la Bible, c'est revenir à la maison. J'ai trouvé mon salut, je n'étais plus seule. Ce fut le début d'une vie nouvelle, plus riche, plus heureuse que je n'avais jamais eue ou cru possible. J'avais trouvé des amis compréhensifs qui savaient souvent mieux que moi quelles étaient mes pensées, mes sentiments, et qui ne me permettaient pas de me retrancher dans ma prison de solitude et de peur pour un léger affront ou un chagrin. En échangeant avec eux, de grands courants de lumière m'ont démontré qui j'étais vraiment et combien je leur ressemblais. Nous avons tous en commun des centaines de traits de caractère, de peur et de phobie, de préférences et d'aversion. Brusquement, je pouvais m'accepter comme j'étais, avec mes défauts et tout, car n'étions-nous pas tous ainsi? En m'acceptant, je ressentais un bien-être intérieur et la volonté et la force de faire quelque chose à propos des défauts que je ne pouvais pas supporter chez moi. Ce ne fut pas tout. Il savait quoi faire à propos de ces abîmes noirs, prêts à m'engloutir quand je me sentais déprimée ou nerveuse. Il y avait un programme concret pour nous donner la plus grande sécurité intérieure possible à nous, qui avions fui si longtemps la réalité. Le sentiment d'un désastre imminent qui m'a hanté pendant des années a commencé à diminuer à mesure que je mettais de plus en pratique les 12 étapes. Cela a fonctionné. Étant un membre actif des AA depuis 1939, je me considère enfin comme un membre utile de la société. J'ai quelque chose à offrir à l'humanité, puisque je suis particulièrement qualifiée, comme personne qui souffre, à aider et à réconforter ceux qui ont trébuché et qui sont tombés et qui doivent maintenant faire face à la vie. Ma plus grande satisfaction est de savoir que j'ai joué un rôle pour aider des quantités d'autres comme moi à trouver le bonheur. Il est important que je puisse recommencer à travailler et à gagner ma vie, mais c'est secondaire. Je crois que ma volonté démesurée d'autrefois a finalement pris la place qui lui revient, car je peux dire plusieurs fois par jour que ta volonté soit faite et non la mienne, et le penser vraiment.